Louise Cornaz, sous le pseudonyme de Joseph Autier, Madame Récamier. Chapitre 1. Premier succès et premier revers. C'est à Lyon, où son père possédait une étude de notaire, qu'était née le 4 décembre 1777 Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard. Nommée en 1784 receveur des finances, Jean Bernard quittait Lyon pour s'établir à Paris, avec sa femme, dans un hôtel de la rue des Saints-Pères. Leur fille, Juliette, ne les y rejoignit qu'après avoir passé quelques années au couvent de la Déserte, où une de ses tantes était religieuse. Je quittai à regret une époque si calme et si pure, écrivait-elle plus tard, à propos de sa sortie du couvent. Elle me revient quelquefois, comme dans un vague et doux rêve, avec ses nuages d'encens, ses cérémonies infinies, ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs. Jamais, assurément, la jeune pensionnaire ne devait retrouver des jours si calmes et si purs. Elle allait au-devant d'une existence exceptionnellement brillante, pleine de triomphes et de succès, dont bien peu de femmes ont connu l'équivalent. Des admirations, des adorations sans bornes allaient s'offrir à elle. Pourtant, ce qu'elle quittait est resté certainement ce qui a le plus ressemblé au bonheur dans la longue carrière, à la fin de laquelle elle disait parfois « La vie que je menais n'est pas enviable ». Juliette Bernard était déjà, quand elle arriva chez ses parents, très jolie, aimable et gaie. Elle n'avait pas encore l'incomparable beauté qui devait la faire tant remarquer plus tard, mais déjà elle ne passait point inaperçue. Sa mère, une femme élégante aimant le faste et le bruit, se plaisait à la parer comme une idole et à la produire dans le monde, ce que la fillette trouvait infiniment plus ennuyeux qu'amusant. Cela n'empêchait cependant point Madame Bernard de veiller à ce qu'elle reçût une éducation soignée. Juliette fut bientôt bonne musicienne. Elle chantait, jouait de la harpe et surtout du piano, qui resta jusqu'à la fin de sa vie son instrument préféré. Elle dansait avec une grâce extrême, et pendant les premières années de sa jeunesse, elle aima la danse avec passion, mais elle l'abandonna de bonne heure. Les arts d'agrément ne formaient point d'ailleurs sa seule étude, car Madame Bernard tenait à ce que son intelligence ne fût pas moins développée que ses talents. On recevait une société nombreuse et cultivée chez Monsieur et Madame Bernard. Ils menaient un grand train de vie. Leur hospitalité très large et leur amabilité attiraient chez eux beaucoup de gens d'esprit. Ils avaient une loge aux Français, ils donnaient des fêtes fréquentes. Juliette prit ainsi de bonne heure une si grande habitude du monde que jamais, dans la suite, elle n'éprouva le moindre embarras à se trouver en contact avec la société la plus haute et la plus distinguée, non seulement de Paris, mais de l'Europe entière. Elle avait 15 ans quand elle épousa de son plein gré un banquier, lyonnais d'origine, mais fixé à Paris, Monsieur Jacques Récamier, de 27 ans plus âgé qu'elle. Elle voyait en lui un ami de sa famille, un homme bon et enjoué, qui lui témoignait une affection paternelle. Elle n'en demandait pas davantage. Cette affection, qui ne changea point de nature, et ne fut que celle d'un protecteur et d'un ami, lui suffit-elle toujours? Ne regretta-t-elle jamais d'avoir lié sa vie si tôt et si imprudemment? Il est probable, il est même certain que oui. Mais elle n'en refusa pas moins, chaque fois qu'elle en fut sollicitée, de rompre un lien qui n'avait de réel que les apparences. Le mariage de Juliette eut lieu le 24 avril 1793. On était en pleine terreur. La vie de Paris semblait être comme suspendue. tous les salons étaient fermés. L'unique préoccupation était de se faire oublier. Aussi, pendant 4 ans, monsieur et madame Récamier vécurent-ils dans l'ombre, ne voyant et ne recevant presque personne. Durant les temps qui succédèrent immédiatement à la terreur, tout le monde craignait d'avoir l'air de posséder un foyer. On se rencontrait dans les lieux publics, dit Chateaubriand. Ce ne fut donc point dans les salons, il n'y en avait plus, que la jeune femme, dont la beauté s'était merveilleusement épanouie, remporta ses premiers triomphes. Mais à la promenade de Longchamp, où, un matin du printemps de 1801, elle fut l'objet d'une véritable ovation, et à l'église de Saint-Roch, où, un jour quel qu'était, pour une bonne œuvre, la foule qui envahissait la nef se pressa pour la voir, au point qu'elle faillit être écrasée. La quête produisit 20 000 francs, et la réputation de la belle Juliette se répandit jusque dans les rues, où, comme elle le disait elle-même plus tard, les petits Savoyards se retournaient pour la regarder. Benjamin Constant raconte que les premières années du mariage de madame Récamier se passèrent entre des occupations poétiques, des jeux enfantins dans la retraite et de courtes et brillantes apparitions dans le monde. Le monde, à cette époque, c'était la société du directoire. Monsieur et madame Récamier ne la fréquentèrent point et ne franchirent qu'en 2 occasions le seuil du palais du Luxembourg où se donnaient les fêtes officielles. La première fois que madame Récamier y parut, on célébrait le retour d'Italie du général Bonaparte. Elle ne l'avait jamais rencontré jusqu'alors, et pour le mieux voir, elle se leva pendant une harangue que lui adressait Barras. Elle était si rayonnante dans sa robe blanche que tous les yeux se tournèrent de son côté et qu'un long murmure d'admiration emplit la salle. Furieux de voir l'attention se détourner de lui un instant, Napoléon la foudroya du regard, et toute confuse, elle se hâta de se rasseoir. La position de M. Récamier, ses hautes relations d'affaires, la beauté et la grâce de sa femme groupèrent bientôt autour d'eux, dans l'hôtel de la rue du Mont-Blanc, maintenant rue de la Chaussée-d'Antin, qu'il venait d'acquérir de M. Nègre, et dans le château de Clichy, où il passait une grande partie de l'année, une société formée de tout ce que Paris comptait de plus distingué, soit comme rang, soit comme intelligence. L'ancien et le nouveau régime s'y coudoyaient. Les membres de la famille Bonaparte, les partisans du consulat, s'y mêlaient à ceux de l'ancien régime et aux représentants des meilleures familles de France. Leur salon fut le premier qui rouvrit ses portes, et fut, pendant assez longtemps, l'unique centre de ralliement de ce monde encore si troublé et si désorganisé. On n'y faisait pas de politique. Les maîtres de la maison n'avaient aucune raison de se montrer hostiles à l'homme dont la puissance grandissait chaque jour, et qui déjà régnait en despote et ne supportait aucune rivalité autour de lui. Mais bientôt l'arrestation de M. Bernard, qui, accusé de complicité avec les Chouans, ne dut son élargissement qu'à l'intervention de Bernadotte, le bannissement de Moreau, l'exécution du duc d'Enghien, et surtout l'exil de madame de Staël, froissèrent les sentiments d'admiration et la sympathie que madame Récamier avait jusqu'alors éprouvée pour Napoléon. Les démarches que Fouché fit à la même époque pour attirer et fixer à la cour la jeune femme, à laquelle il ne cacha pas le rôle qu'il espérait lui voir jouer bientôt auprès de son maître, achevèrent de la détacher de l'empire naissant. Madame Récamier ne tarda pas à subir les conséquences d'un refus tout à son honneur. Au cours de l'automne de 1806, la maison de banque de son mari se trouva dans un embarras momentané dont la Banque de France aurait pu aisément l'aider à sortir si le gouvernement n'avait pas refusé son autorisation à l'appui sollicité. Du jour au lendemain, la ruine atteignait un des plus puissants établissements financiers de la capitale. M. Récamier fit à ses créanciers l'abandon de tout ce qu'il possédait. Sa femme vendit jusqu'à son dernier bijou. Ils sortirent de cette crise l'honneur sauf et la tête haute, grandis dans l'estime de tous ceux qui les connaissaient, mais réduits à une situation de fortune qui, comparée à leur opulence passée, était presque de la pauvreté. Madame Récamier fut comme idéalisée par ce premier revers, auquel s'ajouta bientôt la mort de sa mère. L'épreuve entourait sa beauté d'une auréole. L'amertume de voir autour d'elle des défections et des froideurs lui fut épargnée. Ses amis lui restèrent. Et cette fois, la fortune s'éloigna seule, écrivait un jour le plus dévoué de tous ceux qui l'ont aimé, le philosophe Ballanche. Son salon, pour être devenu plus simple et s'être rapetissé, n'en fut pas moins fréquenté. Un cercle d'hommes d'élite, d'esprits éminents, d'artistes, de littérateurs, continua à s'y presser. Seulement la politique, peu à peu, s'y glissait, et de plus en plus, les habitués s'en recrutaient dans tous les rangs de l'opposition. Chapitre 2. L'exil. À plusieurs reprises durant les années qui suivirent, Madame Récamier séjourna au château de Coppet auprès de Madame de Staël. Lorsque celle-ci eut achevé les 3 volumes de son ouvrage sur l'Allemagne, elle se rapprocha de Paris à la distance des 40 lieues qu'il ne lui était pas permis de franchir pour être plus à même de surveiller l'impression du livre qui allait éveiller les susceptibilités impériales. Madame Récamier la rejoignit tout d'abord. Puis, lorsque la censure frappa l'œuvre de son ami, elle fit de vains efforts pour obtenir que la décision ne fût point maintenue dans toute sa rigueur. Les 10 000 exemplaires de l'Allemagne furent saisis et mis au pilon. Madame de Staël apprit la chose à Coppet, où elle était retournée. Elle se décida aussitôt à mettre plus d'espace entre elle et son persécuteur et à partir pour la Suède. Dès que Madame Récamier eut connaissance de cette décision, elle manifesta l'intention d'aller encore dire adieu à l'exilé. Esménard, le chef de la censure, essaya de la dissuader d'une imprudence à laquelle l'entraînait, disait-il, son extrême bonté, et qui pourrait avoir pour elle de déplorables conséquences. Madame Récamier répondit simplement que la visite d'une femme inoffensive à une amie malheureuse ne pouvait porter ombrage à personne. Moins confiante, Madame de Staël elle-même la dissuadait d'entreprendre ce voyage. Madame Récamier n'en passa pas moins 36 heures à Coppet, mais au retour, elle trouva, à Dijon, Monsieur Récamier. Il venait lui annoncer qu'elle était, elle aussi, exilée à 40 lieues de Paris. Elle s'établit d'abord à Châlons avec une enfant qu'elle venait d'adopter, une petite fille d'une des sœurs de M. Récamier. C'est cet enfant qu'elle fit élever et qu'elle aima comme si elle eût été sa propre fille, qui, devenue plus tard Madame Lenormand, a publié les 2 grands volumes de souvenirs auxquels nous devons une grande partie des matériaux dont nous avions besoin pour écrire cette étude. Châlons était un triste séjour pour une femme peu habituée à la solitude. Aussi n'y prolongea-t-elle pas son séjour au-delà du 8 mois, au bout desquels elle se transporta à Lyon. Aucune ville, hormis Paris, n'aurait pu lui offrir plus de ressources. La famille de son mari y occupait une place honorée. Elle y fut bientôt entourée d'amis anciens ou nouveaux. Elle n'en éprouvait pas moins un sentiment d'isolement profond et accablant. À la fin de janvier, le vicomte Mathieu de Montmorency, exilé, comme elle, pour avoir embrassé trop chaudement la cause de madame de Staël, vint à Lyon pour la voir, et la trouva si accablée qu'il jugea un changement d'air absolument nécessaire à sa santé. Il l'engagea donc à entreprendre un voyage en Italie et n'eut pas de peine à l'y décider. Après de courts arrêts dans différentes villes, principalement à Florence, madame Récamier se fixa à Rome, où elle loua d'abord un appartement à la place d'Espagne, puis après un mois, le palais Fiano au Corso. Canova fut bientôt son hôte journalier. Souvent aussi, elle allait le voir travailler dans son atelier. Enfin, quand l'été rendit le séjour de Rome insupportable, il lui offrit d'aller occuper avec sa nièce une partie d'un appartement qu'il louait à Albano. L'hiver la trouva à Naples, où le roi Murat et la reine Caroline la reçurent comme si elle n'avait pas été en disgrâce. L'étoile de Napoléon, du reste, baissait à l'horizon. Leipzig avait donné le coup de mort à sa puissance. Sa chute était imminente, et les alliés pressaient Murat de se joindre à leur coalition. Le jour où il signa le traité qui le liait aux ennemis de l'homme auquel il devait tout, il trouva, en entrant chez la reine, madame Récamier, à laquelle il demanda son avis sur le parti qu'il allait prendre. « Vous êtes français, sire, lui répondit-elle. C'est à la France qu'il faut être fidèle. » « Je suis donc un traître, » s'écria Murat, en montrant du geste la fenêtre par laquelle on voyait la flotte anglaise entrer, toute voile déployée, dans le port de Naples. La Semaine Sainte ramena madame Récamier à Rome. Canova, en son absence, avait fait d'elle de mémoire deux bustes qu'il plaça tout à coup devant ses yeux, dans la pensée que cette vue lui causerait un sensible plaisir. Il fut désappointé. La surprise, pour une raison ou pour une autre, ne fut pas agréable au modèle. Canova ne pardonna jamais complètement la blessure faite à son amour-propre. Un des deux bustes a disparu. Peut-être Canova l'avait-il détruit. Il ajouta à l'autre une couronne d'olivier et dit un jour à la femme qu'il n'avait peut-être pas su faire assez belle pour qu'elle se reconnût. « Il ne vous plaisait pas, madame. J'en ai fait une Béatrice. » C'est sous ce nom qu'après la mort du grand artiste, il fut remis à madame Récamier par son frère, l'abbé Canova. Mais les portes de Paris se rouvraient pour les exilés. Napoléon était à l'île d'Elbe. Madame de Staël rentrait dans la grande ville dont elle avait tant souffert d'être éloignée, pressait son amie de venir la rejoindre. Il n'était point besoin d'insister, et ce fut le cœur joyeux que la belle Juliette reprit les chemins qui menaient en France. Elle ne voulut cependant point quitter Rome sans aller prendre congé du général Miollis, le commandant des forces françaises, l'homme qui, peu de jours auparavant, occupait la première place dans la ville éternelle. Il parut aussi touché que surpris de sa visite, et lui avoua que, depuis le jour où, après la chute de l'empereur, il avait quitté le commandement de Rome, pas un seul visiteur n'avait franchi le seuil de sa demeure. Le 1er juin 1814, dit madame Lenormand, madame Récamier arrivait enfin à Paris, après un exil de près de 3 ans, qui n'avait jamais été révoqué. Chapitre 3. Retour à Paris. La rentrée de madame Récamier à Paris fut le début de la plus brillante époque de sa vie. Son retour coïncidait avec celui des Bourbons. La royauté rétablie rétablissait du même coup l'ordre dans la société. Les différences de classe et de rang s'accentuaient. Les salons se rouvraient. Et celui de la belle et charmante femme, à laquelle l'exil et la persécution avaient ajouté un attrait nouveau, brilla bientôt d'un très vif éclat. La fortune de M. Récamier s'était reconstituée peu à peu. Celle de Mme Bernard, sans être très considérable, n'en constituait pas moins pour sa fille une indépendance pécuniaire qui n'était point à dédaigner. La mode s'empara du nom de Mme Récamier et en fit l'arbitre de toutes les élégances. L'élite de la société, non seulement de Paris, mais de l'Europe entière, ratifiait le choix de la mode. L'aristocratie française, remontée au pouvoir avec Louis XVIII, lui faisait fête. Des souverains, des princes étrangers, considéraient comme un honneur de lui être présentés et de pouvoir se dire ses amis. En même temps, sa sympathie pour toutes les souffrances, sa tendance innée à faire sienne les causes perdues, à s'intéresser aux vaincus, l'attrait irrésistible que lui inspirait le malheur, la poussait à ouvrir toute grande ses portes aux partisans de l'Empire. Aussi, la société qui se coudoyait chez elle était-elle fort disparate et n'aurait-elle pu se trouver confondue nulle part ailleurs. Les divisions de partis sont telles qu'on ne peut les réunir dans une chambre, à moins d'être comme vous, un ange de bonté qui couvre tout de ses ailes, lui écrivait alors Madame de Staël. Parmi les hôtes que le malheur des temps, plus que son libre choix, imposait à la France, en cette première année de la Restauration, le duc de Wellington fut un des plus assidus auprès de Madame Récamier, et celle-ci, flattée sans doute des hommages que le grand général lui offrait, d'une façon parfois un peu bruyante, les recevait avec un plaisir qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. La délicatesse ne paraît pas avoir été le trait dominant du caractère du noble duc. Incapable de comprendre que le patriotisme de sa belle amie était infiniment plus profond que le ressentiment qu'il lui supposait contre Napoléon, il se présenta chez elle dans tout l'orgueil de son triomphe, au lendemain de la bataille de Waterloo, et s'écria « Je l'ai bien battu ». Ces paroles révoltèrent la Française qu'était Madame Récamier, et dès lors, elle refusa de recevoir le vainqueur de celui qui ne l'avait cependant guère ménagé elle-même. Les cent jours avaient jeté à peine un voile sur l'éclat de sa brillante existence. Son intimité avec le roi Murat et la reine Caroline, l'appui qu'il sollicitait d'elle, celui de Benjamin Constant qu'elle s'efforça de leur acquérir, la mêlèrent de très près aux agitations politiques de cette époque. Mais la seconde Restauration la retrouva toujours au premier rang, exerçant elle aussi une sorte de royauté qui devait lui appartenir, incontestable et incontestée, jusqu'à la fin de l'année 1819. Chapitre 4. L'abbaye au bois. Cette fin de l'année 1819 fait époque dans l'existence de Madame Récamier. Elle coupe, pour ainsi dire, sa vie en deux. Sa vie brillante de femme du monde est arrivée à son terme. L'étoile de la mode renonce aux fêtes et aux réunions d'une société dont elle était l'idole pour entrer dans une retraite qui atténuera l'éclat de ses rayons, mais ne les en rendra que plus doux et plus pénétrants. Peu de mois auparavant, elle avait acheté en son nom personnel un hôtel situé rue d'Anjou et entouré d'un jardin dans lequel Chateaubriand aimait à voir les rayons de lune passer entre les feuilles. Elle avait à peine eu le temps de s'attacher à cette demeure élégante et confortable que déjà elle se voyait obligée de s'en défaire pour s'établir dans cette abbaye au bois qu'elle devait habiter presque continuellement pendant 30 ans. M. Récamier, malheureusement pour lui et pour sa femme, s'était laissé entraîner de nouveau à des spéculations qui, loin de réussir, engloutirent tout à coup non seulement son propre avoir, mais encore une partie de la fortune que sa femme lui avait imprudemment confiée. C'était pour lui la ruine complète, pour elle, une forte diminution de l'aisance retrouvée. Elle s'était reprise avec un bonheur bien compréhensible, à des habitudes de luxe et d'élégance qu'il devait lui être dur d'abandonner pour la seconde fois. 13 ans auparavant, à l'époque de ses premiers revers, l'élasticité de la jeunesse lui aidait puissamment à accepter un changement de fortune qui lui pesait beaucoup plus maintenant que, moins jeune, elle redoutait davantage l'avenir et les soucis qu'il semblait lui tenir en réserve. Elle comprit l'absolue nécessité de séparer son sort de celui de M. Récamier, et pour rendre possible cette rupture, elle n'hésita pas à vendre son hôtel et à demander un asile au couvent de l'abbaye aux bois. Elle décida de louer un des appartements, indépendants les uns des autres, qui entouraient le couvent, et d'établir dans une maison voisine son père, un vieil ami de celui-ci qui depuis longtemps ne le quittait pas, et M. Récamier lui-même, auquel elle avait arraché la promesse de ne plus s'occuper d'affaires et qu'elle s'engageait à entretenir avec les débris de sa propre fortune. Elle gardait auprès d'elle sa nièce, ou pour mieux dire sa fille adoptive, avec laquelle elle s'établit dans l'unique appartement alors vacant à l'abbaye aux bois. Il était petit, incommode, d'une simplicité toute monacale. Il fallait, pour y parvenir, monter 3 étages d'un mauvais escalier. Les 3 vieillards, qui n'étaient plus réunis sous le même toit qu'elle, venaient chaque soir partager son dîner. Elle les entourait d'une tendre sollicitude et veillait à ce que rien ne leur manquât de ce qui pouvait leur adoucir l'amertume de la ruine. Mais si Madame Récamier renonçait au monde en se plaçant sous l'égide d'une communauté religieuse, le monde refusa de se séparer d'elle et de la perdre tout à fait. Les personnes qui louaient des appartements à l'abbaye aux bois continuaient à jouir d'une grande liberté. Tous ceux qui avaient pris l'habitude de se grouper autour de la femme charmante, dont le rôle dans la société ressemblait à celui d'un aimant, attirant chacun à lui, peuplèrent bientôt les pièces, guère plus grandes que des cellules, qu'elle paraît de sa seule présence. Elle rendit célèbre ce couvent parisien de l'abbaye aux bois, presque inconnu avant elle, et dont le nom ne se séparera plus du sien. Une maladie de sa nièce, pour laquelle les médecins désiraient un climat plus doux que celui de Paris, l'obligea à partir pour Rome au mois de novembre 1823. Elle y passa 8 mois, toujours très entourée, très recherchée de tous les étrangers, de tous les artistes qui habitaient la ville éternelle ou ne faisaient qu'y passer. L'été la trouva à Naples, l'automne la ramena à Rome, puis au printemps, elle reprit la route de Paris, mais en faisant un détour pour voir Venise et visiter à Trieste une majesté déchue, la veuve du roi Murat. Madame Récamier rentrait à l'abbaye aux bois au moment du sacre du Charles X. Paris était en fête, mais elle n'en reprit pas moins sa vie de recluse, ne sortant guère, et préférant attendre ses amis chez elle que d'aller les chercher au milieu du bruit, des lumières et des fatigues des réunions mondaines. Son mari, son père et leur vieil ami jouissaient en bonne santé du repos et du bien-être qu'elle leur assurait. Elle allait marier sa nièce à un jeune homme dont elle avait fait la connaissance à Naples et qui méritait la confiance qu'elle lui accordait. Des années d'un bonheur calme et paisible semblaient lui être réservées. Mais la joie qu'elle éprouvait à se retrouver au milieu des soins ne fut pas de longue durée, et le deuil jeta bientôt un voile épais sur les perspectives heureuses qu'elle avait contemplées et saluées de loin, avec un sourire ému et reconnaissant. Au lendemain du mariage de Madame Lenormand, la mort enlevait subitement à Madame Récamier un de ses plus anciens amis, le duc Mathieu de Montmorency. Le coup fut cruel pour elle, et jamais elle ne s'en consola entièrement, car elle perdait son guide le plus sûr et son meilleur appui. Les deuils allaient, d'ailleurs, se succéder autour d'elle, et les rangs de ses intimes s'éclaircirent de plus en plus. M. Bernard suivit le premier le duc de Montmorency dans la tombe, puis ce fut le tour de M. Récamier. Pris d'une fluxion de poitrine, il avait désiré être transporté à l'abbaye au bois, où il espérait respirer plus facilement que dans son propre appartement. Il expira dans le salon de sa femme. Il semblait à celle-ci qu'elle perdait son père une seconde fois, et ce fut sincèrement qu'elle le pleura. Elle aurait été désormais bien seule au monde si ses amis ne lui avaient constitué une famille très unie et très attentive auprès d'elle. Mais personne ne pouvait lui épargner des coups et des ébranlements venus du dehors et dont elle ressentit cruellement les effets. La révolution de juillet 1830, puis 2 ans plus tard, la violente épidémie de choléra qui ravagea Paris et les troubles qu'elle provoqua dans le peuple, l'émotionnèrent au point d'altérer sa santé d'une façon inquiétante. Elle fit, pour se remettre, un voyage en Suisse, dont elle revint guérie en apparence, mais moins forte qu'elle ne l'avait été auparavant. En 1837, à l'époque de la mort de la reine Hortense, au malheur desquels elle avait pris la part la plus vive, Madame Récamier fut prise d'une sorte de fièvre nerveuse, lente et persistante, dont les effets effrayèrent beaucoup son entourage. Triste et découragée, elle avait pris un dégoût maladif pour l'abbaye au bois et passa l'hiver dans un hôtel de la rue d'Anjou, mis à sa disposition par son propriétaire, le baron Pasquier, qui, nommé chancelier de France, allait s'établir lui-même au palais du Luxembourg. Elle rentra chez elle au printemps, mais dès lors, elle alla chaque année demander au bain de mer qu'elle prenait à Dieppe ou aux eaux d'Ems un rétablissement qu'elle ne devait plus retrouver complet. La vie, d'ailleurs, s'obscurcissait littéralement pour elle. Sa vue s'en allait, voilée par une cataracte qui peu à peu s'épaississait sur ses yeux. Son ouïe, très fine, l'aidait à reconnaître immédiatement les personnes qui lui adressaient la parole. Elle était si habile à éviter les obstacles, elle glissait si doucement sur le parquet, la main légèrement tendue en avant, que ceux qui ne la connaissaient pas intimement croyaient que sa vue avait seulement un peu baissé. Une première opération semblait avoir réussi, mais elle en compromit le résultat en accourant auprès du lit de mort de son vieil ami Ballanche, alors qu'une absolue immobilité lui était ordonnée. Une seconde tentative d'opération échoua également. La nuit devenait complète pour elle. C'était la nuit aussi pour son cœur. Après Ballanche, Chateaubriand achevait de mourir. Elle n'avait, pour ainsi dire, plus aucune raison de vivre, quand au printemps de 1849, le choléra, cette maladie qui lui inspirait une crainte invincible et comme prophétique, fit à Paris une nouvelle apparition. Elle en fut atteinte chez sa nièce. Madame Lenormand, dès l'apparition du fléau, l'avait engagée à quitter la rue de Sèvres, où il sévissait avec une violence particulière. 2 jours plus tard, elle expirait, le 11 mai 1849, après une nuit de terrible souffrance. Chapitre 5. La légende et l'histoire. Il s'est créé autour du nom de Madame Récamier une sorte de légende qui, contrairement à ce qui est en général le propre des légendes, la diminue beaucoup plus qu'elle ne l'idéalise. En effet, d'après l'opinion courante et reçue, qu'a-t-elle été ? Une femme belle, très belle, probablement très coquette aussi, et qui réussissait à se faire aimer de tous les hommes qu'elle rencontrait. Pour beaucoup de personnes, Son histoire tient dans ces quelques lignes. Mais il suffit d'étudier d'un peu plus près cette figure disparue pour se persuader que, pour une fois, la légende a fait tort à l'histoire. Les détails biographiques qui précèdent ce chapitre n'ont pas donné le possédé du charme qu'ont subi, à bien peu d'exceptions près, tous ceux, hommes ou femmes, qui ont approché Madame Récamier. Sa beauté y entrait évidemment pour une grande part, mais ne suffit pas à l'expliquer. D'autres ont été belles, sans posséder l'empire incontesté qu'elle a exercé jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce moment que Sainte-Beuve appelle « le soir de sa vie, après le soleil couché », parce qu'il ne pouvait se résoudre à parler de vieillesse à propos d'elle. Son esprit ne paraît pas devoir être coté à un chiffre élevé dans la somme totale de qualités dont la réunion a composé cette créature exceptionnellement charmante. Il faudrait, pour pouvoir en juger avec une pleine justice, lire ses lettres et les mémoires que beaucoup de ses amis la pressaient d'écrire et auxquelles elle travaillait parfois. Mais la plupart des lettres que d'ailleurs elle ne prodiguait point et qui n'étaient le plus souvent que de simples petits billets, ainsi que les fragments épars de ses mémoires, ont été détruits. On peut cependant dire, sans injustice, que les rares feuillets épargnés par le feu ne se font remarquer ni par le style, ni par l'originalité, ni par le brillant ou la profondeur des idées énoncées. C'est correct, banal, aimable, tel qu'aurait pu l'écrire toute femme ayant reçu une éducation quelque peu soignée. Son tact parfait, l'intuition extraordinaire qui lui faisait deviner les particularités, les susceptibilités, surtout les douleurs de chacun, la souplesse qui lui permettait de s'assimiler entièrement aux autres, l'intérêt intense qu'elle leur témoignait, l'attention qu'elle leur prêtait, tout cet ensemble rare, imputable avant tout à une absence totale d'égoïsme, lui gagnait les cœurs plus sûrement encore que son irrésistible beauté. Son charme, il a consisté aussi, cela est incontestable, en ce qu'elle possédait, à un degré suprême, le talent d'encenser, disons le mot, de flatter tous les hommes, grands ou petits, célèbres ou non, qui lui étaient présentés. Était-ce calcul ou inconscience? C'est difficile à dire. Mais personne ne résistait à l'ensorcelante musique des louanges que ses paroles, ses regards, son attention même, s'entendaient si bien à prodiguer autour d'elle. Mérimée, qui, à peu près seule parmi ceux qui fréquentèrent le salon de l'abbaye au bois, n'aimait pas Madame Récamier, n'hésite pas à attribuer à cette merveilleuse faculté de louer tout le monde l'ascendant qu'elle exerçait. Elle trouvait tout bien, ou du moins louait tout le monde, écrivait-il. Elle vous poussait à part et vous disait que vous étiez un génie. Je crois qu'elle a dû son influence surtout à sa résignation. Elle était toujours prête à subir la personnalité de tous les lions. Elle ne s'ennuyait jamais, ou elle n'en avait pas l'air. Les hommes ont continuellement besoin d'être remontés comme les pendules. Il nous prend de temps en temps des défaillances, des tristesses, des ennuis, dont on nous tire en général par des compliments. C'est bien en effet par des compliments qu'elle distrayait et consolait les hommes, mais par des compliments dont on ne peut suspecter la sincérité et qui lui étaient dictés beaucoup moins par le désir de leur plaire que par son extrême bonté. Car avant tout et par-dessus tout, elle a été bonne, d'une bonté exquise et si exceptionnelle que, tout bien pesé, c'est à elle qu'il faut attribuer presque entièrement le prestige dont elle a joui pendant près de 60 ans. Elle s'est traduite, cette bonté, de bien des manières différentes, par son amour pour les pauvres, par sa sympathie pour toutes les souffrances, par l'attrait que lui inspirèrent à un haut degré les vaincus, les déshérités, tous ceux que la fortune abandonnait et trahissait. Mais c'est surtout envers les condamnés, de torrents et de toute espèce qu'elle s'est manifestée de la façon la plus touchante. Énumérez toutes les grâces sollicitées par Madame Récamier, toutes les distinctions, toutes les pensions demandées pour des personnes qui n'avaient le plus souvent d'autres titres à sa bienveillance que leur infortune, serait impossible. À l'aube de sa vie brillante, c'est l'élargissement d'un pauvre prêtre, emprisonné pour être rentré en France avant d'avoir été radié de la liste des émigrés, qu'elle demande à Barras, la seconde et dernière fois où elle paraît à une des fêtes du directoire. Un demi-siècle plus tard, malade et déjà presque aveugle, c'est un secours qu'elle obtient de M. Guizot pour une pauvre femme dans la misère. Dans l'intervalle, innombrables sont ceux auxquels elle accorde spontanément ou à leur appel le secours et l'appui de son influence personnelle et de celle de ses relations si nombreuses et variées. Un jour, à Albano, c'était pendant son exil et dans le moment où la toute-puissance de Napoléon n'avait pas encore été ébranlée, elle apprend qu'on vient d'amener à la prison un jeune pêcheur de la côte, accusé d'avoir correspondu avec les Anglais, et qu'il doit être fusillé le lendemain. Aussitôt, elle s'émeut. Elle fait sienne la douleur de la population tout entière du bourg. Elle se rend à la prison avec le confesseur du condamné, et, saisie de pitié, elle se penche vers lui et l'embrasse en lui promettant qu'elle va tout tenter pour obtenir sa grâce. Bride abattue, deux chevaux la conduisent à Rome. Elle voit toutes les autorités françaises. Elle supplie le général Miollis d'user de clémence. Mais celui-ci se borne à lui rappeler qu'elle est elle-même en disgrâce et que son intervention n'a aucune valeur. Le lendemain, le petit pêcheur mourait en bénissant la signora Francese, que jusqu'au dernier moment, il avait espéré voir revenir, et qui revint en effet, mais trop tard, et désespéré de son insuccès. Elle fut plus heureuse à Naples, quelques mois plus tard, car elle réussit à obtenir de la reine Caroline, sur le point de signer un arrêt de mort, la grâce d'un inconnu dont, sans elle, la tête serait tombée sur l'échafaud. En 1822, elle s'efforça de sauver trois jeunes sous-officiers, compromis dans une conspiration militaire et condamnés à mort par le gouvernement, qui usa en cette circonstance d'une extrême rigueur. Les familles des trois jeunes gens n'hésitèrent pas à confier leur cause à Madame Récamier, et celle-ci n'épargna pour eux ni démarches, ni sollicitations, ni lettres, ni visites. Elle réussit à en sauver deux, Coudert et Roget. Le plus jeune des trois, Sire Jean, fut exécuté, ce dont sa protectrice eut grand-peine à se consoler. Bien d'autres encore et de plus haut placés eurent recours à son intervention. Jamais ils ne firent appel en vain à son dévouement. Et si elle échoua parfois dans ses efforts pour leur être utile, ils reconnurent toujours qu'elle avait tenté pour eux tout ce qui était en son pouvoir.